Il était une fois, il y a fort longtemps.
Les raconteurs sur Couleur 3.
Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non?
Alors, ça raconte quoi?
Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus.
Ça ne se raconte pas, ça s'écoute.
Fermez les yeux, d'accord? On va larguer les amarres.
Les raconteurs.
Aujourd'hui, on écoute Laurent Brulart, un entrepreneur des pompes funèbres du même nom, situé dans la basse ville de Fribourg. Il a repris l'entreprise familiale que son père avait montée, aidé par sa mère et même parfois sa sœur. Une histoire de famille, mais surtout de courage pour réussir chaque jour à travailler auprès des morts, mais aussi des vivants. Cet entretien va peut-être vous mettre mal à l'aise. Un témoignage fort, aujourd'hui, sur un thème difficile, mais ce métier-là, qui n'est assurément pas un métier comme les autres, valait bien qu'on s'y attarde un peu.
Les raconteurs sur Couleur 3.
Alors, je m'appelle Laurent Brulart, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, et ma profession, c'est entrepreneur en pompes funèbres. Non, le terme de croque-mort n'est pas... ça me dérange pas du tout. Ça a une certaine historique. Et puis, voilà, c'est comme ça que par chez nous, on appelle les pompes, ceux qui travaillent dans les pompes funèbres. Alors, je suis arrivé dans ce métier en 2001, on va dire, vraiment, je suis rentré dans le métier. C'est quand j'avais 20 ans. Mon père, il avait déjà cette entreprise depuis 7 ans. Et puis, il en avait marre de jamais pouvoir partir en vacances, tout ça. Puis un jour, je lui ai dit, bah, écoute, taille-toi, moi, je m'occupe de l'entreprise. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. Puis, je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Comme ça, on va dire un peu du jour au lendemain. J'allais déjà souvent l'aider avant, mais là, tout à coup, je me suis retrouvé avec des familles entre les mains. Et puis, c'est vraiment autre chose que juste aller donner un coup de main, faire une mise en bière ou quelque chose comme ça. Alors, la première fois que j'ai eu un corps entre les mains, j'ai eu de la chance que mon père, parce que j'étais avec mon père, j'ai eu de la chance que lui me présente un défunt qui était. On avait l'impression qu'il dormait. Et puis, il s'est dit, ça ira bien pour un premier contact avec la mort pour Laurent, quoi. Puis c'est à ce moment-là, ça s'est passé tout en douceur. J'ai pu bien me rendre compte de ce que c'était une personne décédée. On peut toucher, on sent que c'est froid, c'est un petit peu rigide. C'est pas tout à fait comme quelqu'un qui dort, mais ça y ressemble. Puis fil en aiguille, une chose après l'autre. Ben, voilà, on apprend à commencer à décalquer la mort par rapport à quelqu'un qui dort. Alors, quand on nous appelle pour un décès, la première chose pour nous qui est importante à savoir, c'est où est-ce que la personne elle est décédée, avant tout. Parce que ça change beaucoup si une personne est décédée à domicile ou si elle est décédée à l'hôpital. On sait très bien que si elle est décédée à l'hôpital, elle est déjà prise en charge par le personnel hospitalier, qui vont bien s'en occuper, ils vont la mettre à la bonne place, ils vont déjà lui mettre dans une position plutôt correcte, et puis qu'on sait qu'il n'y a pas d'urgence. Par contre, s'ils sont décédés à la maison... On ne sait pas ce que les gens ils ont fait avant, on doit les conseiller. Et puis à ce moment-là, on leur dit, ben voilà, est-ce que le médecin il est déjà passé? Est-ce que vous avez déjà même contacté le médecin pour venir constater le décès? Parce que tant que le médecin n'est pas passé, le corps n'est pas considéré comme défunt. Il nous faut un certificat, les pompes funèbres n'ont pas le droit d'intervenir s'il n'y a pas un certificat de décès. Ça, c'est la première chose. Après, Une fois que c'est établi, nous, on prend nos dispositions avec la famille. Soit il faut aller chercher le cours tout de suite, soit on a le temps, soit on les voit d'abord. Et puis, à ce moment-là, on organise avec eux par rapport à ce qu'ils veulent. C'est en général eux qui nous disent ce qu'ils veulent, et puis nous, qu'on s'adapte pour faire ce qu'il faut. Mais dans bien des cas, ils ont besoin d'être guidés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Pour eux, ils n'ont jamais pensé à ça, et puis ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Mais donc, voilà, on jongle un petit peu là autour. Après, on va chercher le corps. En général, on installe à une chapelle, et puis on attend la cérémonie. Puis pendant ce temps d'attente, on va faire des contrôles, on regarde que les fleurs soient bien mises, ou que le défunt il n'est pas en train de changer, parce que tout à coup, après 3 ou 4 jours, il peut avoir une certaine couleur, ou gonfler, ou avoir du liquide qui sort par la bouche ou par le nez, ou ces choses-là. Puis ça, c'est important qu'on soit présent pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc on passe même plusieurs fois par jour dans les chapelles, en général. Après, on va à la cérémonie, et puis après la cérémonie, en général, on va au crématoire. Très rarement, on fait un enterrement. C'est à peu près... Maintenant, si je prends les chiffres de mon entreprise cette année, on a 5% d'enterrement et 95% de crémation. Puis l'année passée, c'était 100% de crémation. Alors, on a une bonne partie des gens qui partent avec les cendres à la maison, qui les prennent chez eux, disent « Oh, on va les mettre à la nature, à quelque part, où il aimait bien, on allait là-bas, ou au chalet, à la montagne chez nous. » Comme ça, mais la grande majorité des gens, ils vont au Jardin du Souvenir. Ça, c'est la grande majorité chez nous, en ville donc, hein, parce qu'à la campagne, c'est quand même différent.
Couleur 3.
Quand on va chercher un défunt, la première chose, c'est de l'habiller. Après, une fois qu'il est habillé, on va le déposer dans le cercueil. Et puis, on va le mettre dans une bonne position et puis s'assurer que, dans tous les cas, ça va convenir. Peu importe si on va dans une chapelle ou peu importe la lumière ou comme ça, on va dire, voilà, la position, elle est neutre, elle est bien, tout va bien. Puis dès qu'on arrive à ce point-là, après, il y a les points cosmétiques à s'occuper. Ça veut dire qu'il faut regarder qu'il n'y ait pas des grosses taches sur le visage de couleur ou un pansement qui a été mal enlevé par une infirmière ou n'importe. Et puis, on corrige un petit peu les défauts, mais il faut toujours que ça reste très naturel. On ne va pas faire des maquillages pas possibles, à moins que c'était une dame qui était toujours très maquillée. Puis là, en général, on demande aussi des conseils à la famille sur ce qu'ils veulent. Mais on s'occupe de mettre du fond de teint, de remettre un petit peu de rose sur les joues ou au front, juste pour donner un petit peu de vie. Et puis, voilà, ma maman, elle sait très très bien s'occuper de ça. Et puis, c'est elle qui m'a vraiment le plus appris comment s'occuper de surtout à coiffer. C'est des fois difficile de coiffer une dame de 90 ans qui n'a plus beaucoup de cheveux, puis pour qu'elle aimait bien avoir son petit volume, ces petites choses. Alors, au début, on s'arrache les cheveux soi-même, on se dit, c'est pas possible, comment je vais faire? Et puis, voilà, après quelques conseils, la pratique d'avoir vu ma maman faire, et puis qu'elle m'a bien expliqué, aujourd'hui, j'arrive assez bien à le faire. Alors, ça m'arrive assez souvent de parler aux défunts, oui. Je leur parle dans... Je sais pas comment expliquer ça. C'est un petit peu comme... J'aime imager les choses. Ça veut dire quand j'habille un défunt et puis que, par exemple, je dois lui lever le bras et il est un petit peu rigide, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop. Alors je lui dis « Ah, courage, c'est bientôt fini » ou « Ah, je veux pas t'embêter, mais je suis bien obligé pour t'habiller, tu seras tout beau pour ta famille » ou des petites choses comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que c'est assez compliqué à mettre des mots dessus, mais au final, c'est plus... c'est être soi-même. Moi, je suis moi-même et puis... Je lui parle parce que je parle aussi à d'autres choses, même à des objets. Des fois, ça m'arrive de parler à un objet. Si je vois un joli tableau, je dirais, ah ben, t'as une jolie couleur, toi, ou un truc comme ça, des petites choses simples. On a tous des petites choses comme ça. On parle des fois à sa voiture.
We are pretty true to ourselves. We never bargain with our stuff, you know. We just release it. People don't like it. Fuck them, you know. We never negotiate or come to terms. Fuck you! You know what I mean? Can you repeat the question?
Chilling in a tie-dye sky. Answer questions like why. And I do one, oh one, two, one. Till the rise is shown. Chilling in a tie-dye sky. Answer questions like why. Run away, runway, and I wanna wait. Pitchfork got it custom made. Top my shirt, but on top my chain. I got the pack, never underweight. Sunny boys like a summer day. Moon rock made me suffocate. Please do not resuscitate. Cool off, it's nothing, mate. I'm a dinner with three women, double date. I see the raindrops on a stained glass. Wake up in the morning, one of the days passed. You can see the pain through the face mask. Wondering why the trees are so green in the graveyard. I'm chilling in the tie-dye sky. Yeah, you know I live the high life, high bye. Then I'm long gone, I ain't in Hong Kong. But I'm overseas, like. Wish I was smoking cheese. I want some Risen or some OCPs. Hey, feeling like some OAPs, but still foggy. Feeling like ODB, still a youngin'. Still got time to get in. Let's begin. Commit all the seven sins. Like bumping rock Mars, that's the 76. Reminisce in my chair like I'm 76. Sweat.
Chilling in a tie-dye sky. Answer questions like why. And I do one, oh one, two, one. Till the rise is shown. Chilling in a tie-dye sky. Answer questions like why. And I do one, oh one, two, one. Till the rise is shown.
Sitting at the bar, the image of a palm tree painting Timmy Brain. I learned to be insane. I see the raindrops splash on the cracked glass. I didn't get the joke, but I'm happy to laugh last. Sound plastic, pass fast, and crash. And slowly walk into tomorrow, ignorant of sorrow. Borrow your ears, hush child, swallow your tears. Bite the bullet with hollow veneers. Cheers, ignore your peers. Forge careers, keep pouring beer till you wake up in 40 years. Like, okay, now what, son? Even though it's not fun, you gotta keep going till the job's done. Or at least that's what the pamphlet said. Now you're 60 with a timeshare, chilling in the hot sun with white hair and a bag of meds at the edge of the pool with the regrets of a fool. Wait, you're spaced out, you're still 20. It's still time to commit crimes and spill Henny on the street for the death of the you. You're not gonna be free of G and find yourself in the wrong company.
Answer questions like why, and I do want, oh, 1, 2, 1, till the rising sun. Chilling in a tie-dye sky. Answer questions like why, and I do want, oh, 1, 2, 1, till the rising sun.
Dans des telles situations, ce qui se passe, c'est plutôt qu'on essaie tellement de faire son boulot à fond pour essayer de soulager au mieux ces personnes qu'on n'y pense pas vraiment. C'est le genre de choses, on a des émotions, on les vit, mais à la fin, on va dire, on compense par une certaine satisfaction du boulot bien fait. On se dit, ah là, j'ai vraiment fait le maximum, là, ça. Et puis on ressent de l'autre côté que les familles sont satisfaites, et puis ça nous donne de l'énergie pour avancer. Et puis c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben voilà, maintenant je sais que c'est ce boulot, je l'adore parce que j'ai du retour et puis les gens, ils sont contents. Alors pour moi, ce qui est important quand quelqu'un décède, c'est qu'il y a des gens qui vont venir lui dire au revoir. Et puis ce corps qui n'est plus habité, on va dire, par un esprit, c'est comme ça dans notre culture qu'on voit les choses. Le corps, il représente cette personne. Et puis si ce corps, il était pour quelqu'un très important, une fois habité par un esprit, une fois mort, il est toujours important pour cette personne, même si biologiquement, ça ne veut peut-être rien dire. Mais au final, quand quelqu'un est décédé, moi j'ai toujours envie que les familles, quand ils arrivent à la chapelle mortuaire, qu'ils voient le défunt, ils doivent se dire « Waouh, il a l'air apaisé, il a l'air bien ». Ils ne doivent pas avoir un mauvais souvenir. La première fraction de seconde qu'on voit un être proche qui est décédé, ben c'est ça qu'on va garder, c'est ça qui va nous donner le premier sentiment. On va arriver, on va ouvrir la porte de la chapelle, on va voir notre maman, notre papa, notre grand-maman, peu importe qui est décédé. La première fraction de seconde, l'impression que ça va donner, ça va jouer dans le processus de deuil. Alors clairement, les vivants sont beaucoup plus difficiles à gérer que les morts, ça c'est sûr. Des fois les morts, ils sont comme ils sont et puis on peut rien y faire. C'est-à-dire que des fois, ils sont trop mous, ils ne sont pas assez rigides, et puis par exemple, la bouche, elle s'ouvre, et puis on n'arrive rien à faire pour que ce soit bien et puis correct, et puis on est là, on se dit, bon, c'est dommage, je ne suis pas satisfait, j'aimerais bien que ce soit un peu différemment, puis ils ne se laissent pas bien faire. On se dit, mais c'est pas vrai, aide-nous, mais il ne peut rien faire. Ça, c'est le côté. Mais les vivants, eux, ils réfléchissent, ils se posent des questions, de temps en temps, ils s'en posent trop, surtout dans ces situations où on va vivre un deuil, quelque chose de désagréable, où il y a la pression des gens qui est autour, il y a la pression de la famille, qu'est-ce qu'elle va dire la sœur, moi j'aime bien ça, mais elle quoi, puis ci, puis ça, puis au final ça donne toujours des petites tensions, des petites choses, même des fois ça paraît tellement futile, on se dit mais c'est pas, on n'en a rien à faire finalement de ces micro-détails, mais dans le fond, pour eux c'est important. Et puis on doit toujours être, nous on est un petit peu là pour remettre un peu les pendules à l'heure, des fois il y a des gens qui s'attardent sur des choses pas possibles, on est obligé de leur dire écoutez, regardez, l'épouse elle pense ça, vous êtes une cousine. Peut-être que c'est l'épouse qui doit décider, puis pas la cousine sur un petit point qui est peut-être pas très important qui va appuyer. Et puis, comme souvent ils sont perdus, les gens, dans ces moments-là, comme l'épouse souvent elle est bien perdue, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui la protège un peu, puis qui dit voilà, qu'est-ce que vous voulez ?
They say that the people here are magic. They say that the people here have magic in their eyes. Look into their eyes and you'll see. a brand new world shining in the distance. They say that the people here are magic. They say that the people here have magic in their hearts. Look into their hearts and you'll see the light of love shining. Say here a word that reminds you of some distant time ago, a time many years ago when magic was a way, a way of life.
Couleur 3.
Alors, oui, on a eu des demandes. On a souvent des gens qui aiment bien qu'on personnalise un petit peu les obsèques. Et puis, c'est surtout pour les cérémonies, la présentation, la décoration du cercueil, puis ces choses-là. Là, on a pas mal de demandes de gens qui aimeraient un petit peu faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis, on a eu des résultats très intéressants. Ça a toujours été un peu controversé, dans le sens où il y a toujours une partie de la famille qui est plutôt traditionnelle, puis qui se sent un peu choquée. Et puis une autre partie de la famille qui dit « Oh, mais c'est génial, c'est exactement lui, on reconnaît tout à fait, rien que dans la déco, puis dans l'ambiance qu'on a réussi à mettre, ils disent « On le reconnaît tout de suite, c'est génial ce que vous avez fait. » puis les autres qui disent mais on n'ose pas. Donc c'est toujours un petit peu, voilà, il y a un double tranchant, mais en général ça se passe bien. Alors on va dire que financièrement, dans les pompes funèbres, il y a toujours eu depuis des gens qui fantasment, qui croient que waouh, les pompes funèbres c'est quelque chose où ils sont tous millionnaires, ils sont tous riches, c'est fantastique. Mais faut penser que c'est exactement la même chose que dans tous les autres domaines. Il y a un marché, le marché il a un prix. Le pompe funèbre qui est 10 fois plus cher que les autres, il n'aura jamais de travail. Et puis celui qui sera 10 fois moins cher que les autres, eh ben, il ne va pas survivre. Aujourd'hui, on a un marché tendu, comme tout le monde. On ne peut pas avoir trop de stock parce qu'on ne s'en sort pas. On ne peut pas non plus n'avoir pas de stock parce qu'on ne peut plus assumer les décès. On doit stocker des cercueils, des urnes, on a beaucoup de frais. C'est comme toutes les autres entreprises. Après, mettre un prix quand quelqu'un vient pour un décès, des fois, ce n'est pas facile. Parce que des fois, on a envie de leur offrir, hein, carrément. Moi, ça m'arrive souvent, je me dis, ah, pour eux, j'ai envie de... C'est presque dommage de devoir leur envoyer une facture, ils sont dans des situations pas faciles et tout. Mais au final, il faut rester la tête sur les épaules, sinon on s'en sort plus.
Vous êtes dans les raconteurs sur Couleur 3. Aujourd'hui, on écoute Laurent nous parler de la mort dont il a fait son métier. Un métier pas simple dans lequel on voit parfois des choses difficiles qu'il faut apprendre à gérer. Un métier en constante évolution également, qui ne sera plus tout à fait le même dans quelques années. Et pour terminer, un métier qui fait voir son propre corps différemment pour celui qui manipule celui des autres.
Oui, il y a des moments plus difficiles, c'est sûr. Surtout quand il y a des moments très émotionnels, quand on voit une maman qui est décédée, ses enfants qui pleurent, ou l'inverse, un enfant qui est décédé, les parents qui savent plus où ils en sont, c'est émotionnellement très pénible. Ben, en tant qu'homme, il y a une situation que je peux expliquer qui m'a vraiment une fois choqué. C'était un accident de train, et puis c'est comme dans la plupart du temps dans ces situations-là, ben, il ne reste pas grand-chose du corps. Et puis, je me rappelais toujours d'avoir vu une partie du tronc. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué fortement. J'étais là, ouais, ça m'avait très très fortement marqué. Je me suis dit, non, mais quelle horreur, quoi. les services funèbres sont en pleine évolution dans le monde entier. Et puis en Suisse, on n'a jamais été trop en retard dans l'évolution. La seule chose qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on vit dans une génération qui a envie de changer les choses. On entend parler d'écologie, on entend parler de beaucoup, beaucoup d'autres domaines, hein, comme la conservation des corps et tout. Il y a tout qui a évolué vraiment, vraiment beaucoup. La situation, elle est telle qu'il y a peu d'entrepreneurs qui se laissent tenter par l'innovation. Souvent, ils se disent, on a un système qui fonctionne, les gens, ils sont encore dans leur tradition, les gens qui décèdent, ils ont souvent 80, 90 ans, leurs enfants, ils sont déjà souvent à la retraite, donc c'est pas non plus eux qui ont envie de tout changer. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on peut pas tout changer parce que les gens qui décèdent, ils sont encore dans cette génération traditionnelle et tout. Mais c'est sûr que dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même dans 60 ans, on n'arrive même pas à imaginer comment ça sera. Mais ça aura énormément évolué. Alors moi, j'imagine que dans 60 ans, les pompes funèbres, ça sera déjà beaucoup de choses online. On n'aura pratiquement plus besoin de se voir, sauf pour gérer la charge émotionnelle et puis pour rassurer les gens. Mais on va dire que le boulot technique, il pourra se faire énormément en ligne. Dans 60 ans, il y aura sûrement des logiciels de reconnaissance vocaux qui seront très, très, très développés. Donc j'imagine bien qu'on pourra arrêter d'écrire des choses à la main. On gagnera énormément de temps parce qu'on utilisera la parole. Et puis surtout, dans les rites funéraires, on aura optimisé les choses pour, on va dire, pour se concentrer sur l'important. Les gens, ils ont toujours besoin de faire un deuil, dans 60 ans toujours. On sera toujours triste de perdre quelqu'un. Donc ce qui est important dans un deuil, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir le temps de penser au défunt, à la vie qu'on a eue avec et tout ça, et puis d'aller dans la bonne direction, puis d'être en phase avec ses valeurs. Si quelqu'un a des valeurs écologiques, eh ben, au final, il faudrait qu'il puisse partir de manière totalement écologique. Et si à l'opposé, c'est une personne qui a des valeurs très très religieuses et traditionnelles qu'il ne faut surtout pas déranger, eh ben, dans 60 ans, on devra toujours pouvoir le faire, mais de manière très optimisée, où il n'y a plus vraiment de limite. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même limité. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand quelqu'un perd quelqu'un, eh ben, un proche, il se dit, ben voilà, on a quoi comme choix? On peut aller au cimetière, ou bien on garde les cendres à la maison, ou bien est-ce que si, est-ce que ça, mais c'est des petits choix, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a des gens qui aimeraient faire des trucs super, mais on ne peut encore pas le faire.
Les raconteurs sur Couleur 3.
Aujourd'hui, on a la possibilité de se faire inhumer, donc enterrer ou incinérer. C'est deux moyens de transformer le corps en os, en calcium. Parce que ce qui reste après une crémation, c'est des résidus d'os. Beaucoup de gens pensent que les cendres, c'est les cendres du cercueil et puis tout ça, mais en réalité, il reste que de l'os. Et puis, ce qu'il y a aussi, quand on fait une inhumation, c'est ça, c'est qu'après, normalement, après 30 ans, si le corps il est décomposé correctement, il reste que les os. Et puis, dans la plupart des rites funéraires à travers le monde, c'est toujours ça qui est important, c'est l'os qui doit rester. Et puis aujourd'hui, il y a plein de nouvelles façons de faire qui ont été développées, surtout aux États-Unis. Il y a déjà la coamation, c'est comme l'incinération par le feu, mais c'est par l'eau. C'est dissoudre les tissus du corps par de l'eau plutôt que par du feu, ce qui est assez logique vu que le corps humain est composé de 65% d'eau à peu près. Et puis ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place, mais voilà, il faut quand même un peu de temps pour que les politiques et puis tout ça, ils se mettent à jour, on va dire ça comme ça. Et puis il y a d'autres solutions comme l'humusation qui est assez en vogue en ce moment. C'est la façon la plus écologique et la plus naturelle possible de transformer un corps en os. Le principe, c'est d'enterrer le corps à la place de l'enterrer à 2 mètres de profond où il n'y a plus de bactéries puis plus rien qui puisse décomposer le corps. C'est de faire une butte d'humusation, une butte de décomposition. En général, c'est des broyats de déchets verts. On met, disons, je crois que c'est 3 mètres cubes. On met 3 mètres cubes de broyat de déchets verts, on met le corps, puis on remet 3 mètres cubes dessus. Et puis, après quelques mois, il n'y a plus de tissu, il n'y a plus que des os. Alors après, avec ces os, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait soit les broyer, puis les remettre avec l'humusa pour faire un super compost, pour revaloriser des sols. Ou alors, on pourrait très bien remettre ces os dans une caisse à ossements, puis les enterrer à quelque part. Ça éviterait la pollution des nappes phréatiques, par exemple. Alors, une fois qu'on a un super compost, je pense qu'on peut tout faire avec, c'est de la nature. Hein. Qu'on fasse un compost avec un corps humain ou avec les déchets compostables qu'on a de notre ménage, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il y a après, c'est que c'est plus, on est plus dans le deuil, là on est dans la chimie. Et puis un corps est composé de certaines molécules qu'une fois décomposées, on arrive à avoir quelque chose de très fertile, donc on peut tout faire avec. On pourrait très bien le mettre dans son jardin. C'est plus un corps humain, c'est un compost.
Just having you near.
Alors, c'est sûr que au fil du temps, vu ce qu'on découvre, de temps en temps, c'est clair que on s'imaginait pas que c'était fait comme ça à l'intérieur, on peut se dire, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments un peu compliqués, des fois, on se dit, oh non, c'est horrible, mais voilà, il y a une première fois à tout, et puis on n'aura jamais tout vu, je pense. Il y a toujours des situations incroyables, et puis, ouais, c'est sûr qu'on voit son corps différemment au bout d'un moment. Alors, personnellement, dans mon cas, j'ai encore jamais eu l'impression que mon corps me lâche. Dans aucune situation. J'ai déjà eu mal au dos. Tout à coup, j'étais bloqué au dos. Puis je dis, ah mince, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça dure pas longtemps. Deux jours après, je suis nouveau, tout neuf. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai déjà eu à travailler avec des gens que tout à coup, ça allait plus. On n'arrivait pas à faire le travail parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer la charge physique. C'est sûr qu'il y a des situations très difficiles. Physiquement, hein, pas... Si on va chercher quelqu'un de plus de 100 kilos au 8e étage d'un immeuble sans ascenseur, il faut bien s'imaginer qu'on est deux à porter. Dans les cages d'escalier, en général, plus que deux, c'est impossible. Donc ça fait quand même chacun plus de, on va dire, plus de 60 kilos en général, ça fait. Donc on se rend bien compte que celui qui est en bas, il a le poids. Celui qui est en haut, il doit guider avec les bras en haut. C'est pas évident de voir de la poigne. Alors, pour ma propre mort, j'y ai déjà pensé quelques fois, mais je me dis toujours, ce que moi je veux, ça importe assez peu dans le fond. C'est plus, moi ce que je veux, c'est que les gens qui m'entourent puissent vivre ça d'une façon qui leur convienne. C'est difficile d'imaginer que l'entourage, il arrive à vivre convenablement une mort, mais au final, c'est la réalité, quoi. On va tous mourir une fois, on connaît, tous les gens qu'on connaît, ils vont tous mourir, et c'est le cycle de la vie, hein. Autant de fois on se réjouit pour une naissance, autant de fois on va devoir être triste pour une mort. J'aurais pas trop envie de fantaisie. Plutôt que ça convienne aux gens, point. Peu importe ce qu'on fait de moi une fois que je suis mort, ça m'est égal. Tant que ça convient à mes enfants, à ma femme, à mes parents, les autres, ils ont qu'à s'adapter.
C'était Laurent Brulart dans Les Raconteurs, un entrepreneur de pompes funèbres à Fribourg. Un croque-mort qui aime la vie et qui soigne la mort des autres. Un métier pour lequel il faut bien du courage et de la tendresse.
C'était Les Raconteurs.
Interview.
Marie Riley.
Programmation musicale.
Lina Favaro.
Réalisation.
Bonjour Litchi.
I've gotta wait 3 days. I've gotta wait 3 days to spend my life with you. I've gotta wait 3 days. I've gotta wait 3 days till I spend my life with you. All my blemishes on me, all my hate controls me. Oh, but you could influence something beautiful within. You made me wanna live past 23. Feel so worthy and unworthy. The first of the first, the last of the worst. I'm not gonna grow out of you, baby. I'm not gonna grow out of you soon. I'd love to hear that too. I've gotta wait 3 days. I've gotta wait 3 days till I can spend my life with you. I've gotta wait 3 days. I've gotta wait 3 days till I can spend my life with you. Was I wrong to write you a song?
putting space between us all along. My generic ideas of love. I thought this was what people were. I thought this is what we are. I get so low thinking about you not needing me when I need you so much. I've gotta wait 3 days. I've gotta wait 3 days to confess my love to you. I've gotta wait 3 days. I've gotta wait 3 days to confess my love to you.
Couleur 3, midi.